Je suis toi, Marie,
pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
J'insiste sur le fait qu'il faut faire attention sur la manière dont nous parlons de l'amour, parce que, étant donné que nous sommes tous tentés par une certaine forme d'idéalisme, on risque de faire de l'amour un but en soi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit Jésus. C'est Jean 14, 23. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure chez lui. Vous voyez, à travers des paroles comme celle-ci, comme dans bien d'autres, il se montre la vérité de l'amour, plutôt l'amour véritable, qui est un élan vers un autre que moi, et non pas une réalité recherchée pour elle-même. Je veux dire que si nous cherchons la charité, c'est parce que nous cherchons Dieu. S'il n'y a pas la recherche de Dieu lui-même, qui veut faire sa demeure en nous, nous viendrons vers lui. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons vers lui, nous ferons une demeure chez lui. Ça, c'est l'inhabitation de la Trinité en nous. C'est précisément le sommet de la vie chrétienne, en fait, de plonger pleinement dans ce mystère du Père et du Fils qui viennent faire leur demeure en nous, dans l'Esprit Saint. Je dis que si on ne recherche pas Dieu lui-même, bien un moment, c'est-à-dire l'amour n'a plus de sens, il n'a plus de fin. L'amour, c'est une force unitive. Quelque chose qui naît du contact avec une réalité qui m'attire et qui me permet de m'unir à elle, effectivement. Et donc, de présenter l'amour comme le but de la vie chrétienne, et finalement, d'une certaine manière, dangereux. En tout cas, c'est un langage qui peut être, finalement, qui peut enfermer certaines personnes dans une sorte d'héroïsme d'amour recherché comme un idéal de soi. C'est le contact avec le père Thomas Philippe, qui était un vrai théologien mystique, qui m'a aidé à comprendre que l'amour s'achève dans l'union. L'amour lui-même, il trouve son accomplissement, il recherche l'union. C'est l'union qui fait vivre. C'est la relation effective qui fait vivre. Contact avec un autre que moi-même. Il y a un premier contact qui permet une attraction, une première connaissance, et il faut que cette connaissance devienne communion grâce à l'amour. Notre communion, elle est avec le Père et le Fils. Celui qui parle ainsi est quelqu'un qui s'est laissé conduire sur le chemin d'un amour qui a trouvé son achèvement, donc à travers tout un long chemin, dans une véritable intimité. L'homme vit de relation. Le Fils vit par le Père en Dieu. Chaque personne vit de relation. Chaque personne divine vit de relation. Et nous-mêmes, nous sommes créés à l'image du Dieu Trine et nous vivons de relation. Écoutez Benoît XVI, parlant de ce danger que l'essence du christianisme, c'est dans son premier encyclique, donc Dieu est amour, c'est au numéro 7. L'essence du christianisme serait alors coupée des relations vitales et fondamentales de l'existence humaine. Constituerait un monde en soi, considéré peut-être comme admirable, mais fortement détaché de la complexité de l'existence humaine. Un monde en soi, détaché de la complexité de l'existence humaine, c'est le christianisme idéaliste, moralisant, qui ne rejoint pas l'homme dans sa vie relationnelle réelle. Alors évidemment, par rapport à cette vie relationnelle réelle, Benoît XVI affronte la question dans cette encyclique de savoir si c'est possible d'aimer vraiment Dieu puisqu'on ne le voit pas, et que l'amour réel naît de la perception, de la connaissance de l'être. Est-il vraiment possible d'aimer Dieu alors qu'on ne le voit pas? Ça, c'est au numéro 16. Et il dit même aussi, l'amour ne peut pas se commander. C'est en définitive un sentiment qui peut ou ne pas être, mais qui ne peut pas être créé par la volonté. Et là, il met il me donne un coup d'arrêt par rapport à un moralisme volontariste qui fait qu'on est sans cesse dans une tension volontariste, il faut aimer, il faut aimer, il faut aimer. En disant carrément, l'amour ne peut pas se commander. Et en même temps un peu étrange par rapport à l'évangile, je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Mais ce aimez-vous les uns les autres est sur fond d'une relation vitale avec le Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce que je vous ai aimé, vous pouvez vous aimer les uns les autres à l'intérieur de cette relation d'amour que vous avez avec moi. Donc, affrontant cette question-là, la possibilité d'une vraie relation d'amour avec un Dieu qu'on ne voit pas, Benoît XVI répond, Dieu n'est pas pour nous totalement invisible. Il s'est rendu visible, car il a envoyé son Fils unique. Dieu s'est rendu visible en Jésus, nous pouvons voir le Père. Jean 14, 9, passage que je vous citais. En fait, Dieu se rend visible de multiples manières. Il vient à notre rencontre, il cherche à nous conquérir, une expression chère à Benoît XVI, se laisser conquérir par le Christ. Cherche à nous conquérir jusqu'à la dernière scène, jusqu'au cœur transpercé sur la croix. Dieu ne nous prescrit pas un sentiment que nous ne pouvons pas susciter en nous-mêmes. Il nous aime, il nous fait voir son amour et nous pouvons l'éprouver. Et à partir de cet amour premier de Dieu, en réponse, l'amour peut aussi jaillir en nous. Ça, c'est le véritable amour qui naît spontanément de l'expérience d'un Dieu aimant qui m'attire précisément par la passion d'amour qu'il a lui-même pour moi. C'est l'image du feu qui est utilisée par les mystiques, du feu au contact duquel on s'allume soi-même. Le feu de l'amour passionné de Dieu pour l'homme allume en l'homme un amour passionné pour Dieu. Mais ça suppose que ce feu de l'amour soit visible. Il est rendu visible sur la croix. Il est rendu visible dans le Christ, à condition de le contempler. Et on revient à ce que je vous disais, la contemplation est la base de tout, la foi est la base de tout. Le regard tourné vers, comme dit Benoît XVI dans cette encyclique admirable, il dit que, à partir de ce regard tourné vers le côté ouvert du Christ, contemplation du cœur de Jésus, à partir de ce regard, le chrétien trouve la route pour vivre et pour aimer. Pour vivre la vraie vie, qui est relation. Relation Christ, relation Père, et à l'intérieur de cette relation Père ou Christ, relation aux autres. Donc, l'importance de cette relation, d'une recherche d'abord d'une connaissance de Jésus-Christ, cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, j'ai accepté de tout perdre, dit saint Paul. On repense aussi à l'évangile de Marthe et de Marie. Hein. Une seule chose suffit, être assis au pied de Jésus, écouter sa parole. Que Dieu nous attire à lui, et d'abord en nous parlant pour nous révéler son amour. Et nous nous ouvrons à cette révélation de son amour par la foi, d'abord comme adhésion à une parole d'amour. Et il faut que cette adhésion à une parole d'amour devienne connaissance intérieure de Jésus-Christ. Mais notre première manière donc de cheminer vers un amour véritable, c'est d'apprendre à connaître le Christ à travers sa parole, de garder cette parole. Et ici, nous pouvons réfléchir un petit peu au chemin de la vie chrétienne. Il peut y avoir au commencement de ce chemin une première rencontre avec le Christ qui, d'une manière totalement gratuite, se rend sensible à nous. Récemment, une personne m'a dit que pendant une semaine, elle avait senti la présence aimante, vivante, concrète du Christ auprès d'elle, l'appelant à lui. Mais elle n'a pas répondu à cet appel. Elle sentait qu'elle n'était pas prête à répondre à cet appel. Mais ça, c'est donné vraiment gratuitement. De donner donc au commencement d'un chemin, ou alors être simplement dans le cadre d'une liturgie, d'une assemblée de prière, être touché par une parole, par quelque chose qui fait que ce Dieu, le Dieu abstrait, devient concret à un moment, nous rejoint vraiment, nous touche vraiment, qu'à partir de là, il y a une recherche qui peut se mettre, une vraie recherche qui peut se mettre en route. J'insiste sur le fait qu'on peut vivre au début d'un chemin des expériences de connaissance, de rencontre, d'union, donc de joie, parce que la joie, c'est le fruit de l'union, sans que pour autant soit fait vraiment le chemin de purification du cœur, qui peut seul permettre d'être vraiment installé dans cette vie d'union intime avec Dieu. Je vous répète, la béatitude, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc, on peut penser les choses ainsi. Jésus vient à notre rencontre. Il se révèle. Par la foi, nous nous ouvrons à cette révélation. Mais reste, après, il y a tout un chemin à faire. Et il ne faut pas s'étonner que Jésus ne puisse pas nous laisser dans ses premières grâces gratuites de rencontre et d'union. Tout simplement parce que notre cœur n'est pas prêt à vivre de cette vie-là. C'est donné comme ça un instant, mais c'est parce qu'il veut nous séduire, nous attirer, et nous fait pressentir où est la vraie vie. Et ensuite, il y a le chemin de purification qui est amer, qui est douloureux, qui passe par d'étranges agonies, comme dit Saint Louis-Marie de Montfort. En tout cas, qui passe par des déserts, des nuits. Ici, j'aimerais citer l'enseignement de Pierre Coursat. Il est évident qu'au début de notre vie spirituelle, nous devons écouter, être assis au pied du Seigneur. Ce qui est premier, c'est la foi comme écoute de la parole de Dieu, qui permet d'accéder à une certaine connaissance de Jésus-Christ. Je dis à une certaine parce que ça ne suffit pas l'écoute de la parole de Dieu. Il faut que le cœur soit purifié pour que cette parole vraiment nous touche profondément et aboutisse à une vraie connaissance intérieure de Jésus-Christ. Mais en tout cas, au début de notre vie spirituelle, le Seigneur peut nous donner dans la prière et dans l'écoute de la parole des grâces, comme je vous ai dit, d'union. Nous sommes toujours au début de notre vie spirituelle. Et si on commence à s'agiter en disant « Merci Seigneur, je vais agir pour toi », eh bien, on ne fait pas des trucs bien parce qu'on n'a pas reçu les grâces nécessaires pour agir et parce qu'on ne l'a pas demandé. Donc, il y a cette première partie très importante, ce repos de Dieu. C'est le Seigneur qui nous dit « Repose-toi, écoute-moi et je te transformerai ». Alors, on peut avoir l'impression, vous voyez, que les choses vont continuer comme ça. On se tient simplement, on prend son temps, on fait sa lectio divina, on prend son temps d'adoration, on écoute le Seigneur. Et puis, on est de plus en plus attiré par lui, on l'aime de plus en plus, et puis à partir de là, tout se transforme. Ben oui, si ça pouvait marcher comme ça, ce serait simple, mais c'est faire abstraction du péché, ça. C'est-à-dire, il y a en nous bien des choses qui résistent, et qui ont besoin d'être purifiées, même si dans les débuts de la vie spirituelle, on n'est pas conscient. Écoutez Pierre Goursat. Alors, le deuxième point, c'est qu'après avoir été au repos, avoir joui du Seigneur, l'avoir écouté, et c'est les premières grâces, qu'il soit vraiment entré en profondeur, nous ayant transformés, nous passons par des purifications, qu'on peut appeler des déserts. On apprendra à savoir comment aimer, comment le Seigneur se cache pour qu'on l'aime davantage. Puis nous arrivons au feu de l'amour de Dieu. Demande au Seigneur, si on demande au Seigneur quand on est dans le désert, vois, je retombe tout le temps, je ne m'en sors pas, mais quand je marche quand même, je ne sais pas très bien où je vais, mais je marche quand même. Si on supplie le Seigneur, si on ne s'appuie pas du tout sur soi, si on demande au Seigneur vraiment de venir et de nous brûler. Le plus simple, c'est de demander le feu du ciel qui vienne en nous, c'est un feu purificateur. Voilà, c'est... Benoît XVI aime citer une parole d'Origène, citant Jésus. Donc Jésus aurait dit « Celui qui s'approche de moi s'approche du feu ». Ce n'est pas une parole d'évangile, mais transmise, tradition orale de Jésus. « Celui qui s'approche de moi s'approche du feu ». Alors ce feu, il est d'abord un feu purificateur. Et ensuite, il devient un feu qui nous transforme en lui, c'est-à-dire qui nous fait aimer comme Dieu aime. C'est page 44. Vous voyez ? Mais pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, vous voyez, il cite trois temps. Le temps des premières rencontres et des premiers amours. Le temps des douloureuses purifications nécessaires. Puis ensuite, il parle du feu. En fait, l'expérience d'un feu qui consume les saletés qui restent en nous, ça correspond à ce que Saint Jean de la Croix appelle les purifications passives. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Dieu achève lui-même de purifier l'âme par une sorte de feu qui consume ce qui reste à consumer, ce qui sont les racines du péché. Mais avant, c'est précédé par ce que Saint Jean de la Croix appelle les purifications actives. Ce sont des purifications qui dépendent beaucoup plus d'une ascèse active, d'actes de renoncement, par lesquels on coopère activement à l'action purificatrice du Christ. Ces temps de désert, de purification, qui doivent permettre à notre cœur de voir Dieu, enfin, d'entrer dans cette contemplation, ce qu'on appelle la purification des sens. dans une première étape, disons. Purification des sens au sens d'une libération de toutes les passions qui font que notre cœur est partagé et qu'on cherche en dehors de Dieu notre nourriture, en dehors de Dieu notre joie. Ce sont les passions qui nous font vivre. Donc, vous voyez, quand saint Paul distingue les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels, il dit en Corinthiens, vous êtes encore charnels puisque vous vous disputez, il y a des jalousies entre vous, tout ça. Et puis il dit, vous les spirituels, dans les Galates, vous les spirituels, reprenez les autres avec douceur, corrigez les autres avec douceur, vous qui êtes des spirituels. En fait, les spirituels sont ceux qui sont parvenus à ce qu'on appelle un état de contemplation, c'est-à-dire à une connaissance habituelle de Jésus, de garder Jésus présent, le contact avec Jésus. Ils ont été suffisamment purifiés pour garder vivre leur vie active d'une manière contemplative, en restant dans cette relation de connaissance intérieure de Jésus-Christ. Ça suppose... ceux qui appartiennent au Christ, dit saint Paul, ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Ça suppose donc tout un travail de purification par rapport aux convoitises qui habitent notre cœur. C'est ce travail de purification par rapport aux convoitises que saint Jean de la Croix appelle la purification des sens. Saint Paul dit dans les Corinthiens, achevez de vous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et souillure de la chair, c'est ça. C'est ces convoitises qui fait que nous recherchons notre vie dans des relations possessives. C'est la cupidité, l'esprit de possession dans les vies affectives. Fait qu'on ramène, tout est, reste en fait centré sur nous. Tant qu'on n'est pas établi dans une relation vraiment d'amour passionné pour Dieu, tant on n'est pas rentré dans l'extase du Fils pour le Père, tant qu'on n'est pas, donc, je dirais qu'on n'aime pas Jésus, comme dit Jean-Paul II, jusqu'à la vraie folie du cœur, ben, c'est sûr que y a toujours des retours sur soi, une recherche de soi. Et notamment dans les relations affectives qui sont contaminées par un esprit de possession. Donc dans l'évangile, Jésus nous met en garde. Et vous pouvez vous rappeler la parabole du semeur. Celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse... En Luc 8, ça c'est Matthieu 13. En Luc 8, vous avez des expressions complémentaires. Hein, ceux qui sont tombés dans l'épine, ce sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route, les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent. Là, il y a les plaisirs de la vie en plus. Hein. Donc les joies qui naissent des passions, des relations. Passionnel. Il y a les soucis, il y a la richesse, et en Marc, c'est encore autre chose, en Marc 4, ce sont les séductions de la richesse et les autres convoitises qui les pénètrent et étouffent la parole. Alors j'aime bien Marc 4 parce qu'elle étouffe la parole, ces convoitises, étouffe la parole. Si nous n'acceptons pas de rentrer dans ce chemin de purification par rapport aux convoitises de la chair, aux relations possessives, si nous restons enfermés dans une forme d'idolâtrie de l'amour possessif, comme dit Benoît XVI, l'idolâtrie de l'amour possessif, c'est-à-dire on vit de passion et on se complaît dans ses passions. On se laisse un droit à de secrets attachements. Ici, à Paray-le-Monial, il y a un chapelain, un religieux, je crois, qui est apparu à Sainte Marguerite Marie après sa mort, au purgatoire, souffrant énormément, et il lui a dit qu'il souffrait beaucoup à cause des relations affectives qu'il avait nourries dans le confessionnal. Apparemment, il n'y avait rien de sexuel, mais il avait gardé des attachements secrets qu'il avait nourris au niveau affectif. Ça suffit. Le cœur n'est pas tout à Dieu. Ça empêche la contemplation, et ça étouffe la parole. Donc ici, vous voyez, ici dans la parabole du semeur, tous, sauf le premier cas où il y a le démon qui enlève tout de suite la parole, mais sinon tous accueillent la parole dans un premier temps, ils l'accueillent même avec joie. Mais ensuite, il y a ceux qui sont sans profondeur de terre, qui n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de vie intérieure, je le comprends comme ça. Puis il y a ceux qui sont étouffés par les convoitises par la suite. Donc on voit très bien comment les choses peuvent se faire. C'est-à-dire une première expérience dans la jeunesse, où il y a une certaine pureté de jeunesse, enfin une certaine ouverture de cœur, comme ça, spontanée, qui fait que Jésus peut plus facilement toucher les personnes, il les attire, mais il y a tout un travail qui reste à faire. Si la personne ne le fait pas à un certain moment de la vie, pas tout de suite, les convoitises vont revenir, parce que c'est les épines qui poussent. Et à ce moment-là, la parole est étouffée, c'est-à-dire que les premières grâces de lumière et de contemplation qu'ils avaient reçues, qui fait qu'ils goûtaient la parole de Dieu et qu'ils étaient attirés quand même d'une certaine manière par Jésus, même s'ils n'avaient pas encore une connaissance très profonde, eh bien tout ça va disparaître même. Et Jésus termine en disant que cela reste stérile, pour pas de fruits. Alors c'est dans le cas de cette purification des sens, vous voyez, que les commandements, le décalogue et une morale des vertus trouvent place. Mais comme un travail que l'on fait sur soi en vue de se disposer à l'époux, à l'union. Pas comme une recherche de perfection morale en soi, recherchée pour elle-même. Pour ça, je vous le disais au début, il ne faut pas négliger les vertus humaines et l'éducation des vertus et l'éducation morale au sens humain du terme, mais il faut que cette éducation des vertus, cette réforme de notre comportement, cette lutte contre nos passions, ce travail de purification et de guérison que nous avons fait, que tout ça soit vécu dans l'espérance. Connaître, pour entrer dans une connaissance plus intime de Jésus. Ici, il me vient à l'esprit le passage de l'épître de Saint-Pierre. Vous voyez, il dit « Apportez encore tout votre zèle à joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance, la constance, à la constance, la piété, l'amour fraternel, la charité. Si ces choses vous appartiennent et qu'elles abondent, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est 2 Pierre 1, 5, 8. Et ça s'achève par ça, qui est le vrai trésor. Connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est là que je vous disais, comme je vous le disais au début, que tout ce qui est prescription morale, observation des commandements, exercice aux vertus, que tout cet aspect moral, au sens restreint du terme de la vie chrétienne, s'inscrivent à l'intérieur d'une sagesse qui nous en fait comprendre le sens et nous les fait vivre dans un bon esprit, c'est-à-dire non pas pour notre propre perfection morale, mais en vue de connaître Jésus-Christ. Sinon, c'est le moralisme, encore une fois, et une secrète recherche de soi. Alors ici, vous voyez, la vertu sous-jacente à la base, il y a la foi. Ici, il parle de la foi. Apportez tout votre zèle à joindre à votre foi la vertu. La base de tout, il y a toujours la foi. L'ouverture du cœur à la parole, à Dieu qui se révèle, qui nous appelle à lui, qui nous révèle son dessein. On adhère dans la foi. Cette foi, elle est appelée à devenir contemplative, mais au départ, elle n'est pas contemplative, elle est une écoute de la parole de Dieu qui nous touche, mais sans qu'on rentre dans un contact permanent avec le Christ, qui est le propre de la contemplation, de l'état de contemplation. Il y a eu la foi. Mais après la foi, ce qui nous permet d'avancer et de bien vivre l'obéissance au commandement et tout l'aspect de renoncement nécessaire à l'acquisition des vertus, de mortification des passions, c'est l'espérance. C'est l'espérance qui devrait animer notre vie morale. L'espérance, c'est le désir de l'union à Dieu, du royaume de Dieu, comme notre vrai bonheur. C'est-à-dire, on a, par la foi, on s'est ouvert à la révélation, on a pressenti là où était la vraie vie, mais pour acquérir le trésor, il faut un long chemin. Ce chemin est rude. Je ne vais pas le cacher. Ici, on pourrait reprendre la parabole du trésor caché. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché dans un champ, qu'un homme vient à trouver. Il le recache, s'en va ravi de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Ça, c'est un peu étonnant parce que la personne découvre le trésor, elle ne le prend pas tout de suite. Elle ne peut pas. Il faut qu'elle achète le champ. Pour acheter le champ, il faut vendre tout ce qu'elle a. Le trésor, c'est Jésus, c'est cette vie filiale qui est en lui, qui est la vraie vie, pour laquelle nous avons été prédestinés. Il le découvre par la foi, dans une première rencontre, mais il ne le possède pas encore dans la contemplation. Et il devra acheter le champ. Je me suis réfléchi, j'ai dit ce champ, ça représente quoi? Il me semble que ça représente la sainteté, c'est-à-dire la sainteté, ce n'est pas le but. La sainteté, c'est ce qui permet l'union. Rechercher la sanctification, dit l'Épître aux Hébreux, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est la purification qui fait qu'on peut aimer Dieu d'un cœur sans partage. Le saint, c'est celui qui appartient totalement à Dieu. Donc on recherche la sainteté en vue de l'union, en vue de la vision. Recherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est Hébreux 14. Donc si on prend le champ comme la sainteté, qu'il faut acheter la sainteté, acquérir la sainteté, mais au prix de bien des sacrifices, bien des renoncements, vendre tous ses biens. Et voyons dans cette parabole, l'homme, il vend tous ses biens avec joie. C'est douloureux, mais il y a une joie au fond de lui-même qui est la joie de l'espérance, qui est la vertu dynamique, qui nous fait aller de l'avant, qui nous donne la force d'accepter les sacrifices nécessaires. C'est-à-dire que le grand combat, c'est l'espérance. Hein. combat de la foi, le combat de l'espérance. C'est ça qui débouche, qui nous permet de déboucher sur une vie d'amour. La charité vient comme un fruit mûr. La vraie charité, je veux dire un amour passionné pour Dieu, vient comme le fruit mûr d'un chemin de foi et d'espérance. L'espérance qui nous porte, donc, ça c'est, vous savez bien, c'est Matthieu 13, 44. L'espérance, et puis rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vous ai dit Hébreux 14, mais c'est pas ça, il n'y en a pas de chapitre 14. C'est Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Mais par rapport à l'espérance, je vous invite à méditer Isaïe. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes ne font que chanceler. Pourtant, les adolescents, ils sont dans les passions de la jeunesse. Alors, du coup, ils se fatiguent et s'épuisent. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Voilà, on les traverse les déserts. On les traverse les purifications douloureuses. On les accepte. Il y a une joie secrète qui habite déjà celui qui espère. C'est Isaïe 40, 30. Mais, voyez, le Seigneur peut nous demander... Donc, ces purifications des sens, telles qu'elles sont décrites par les mystiques, mortification de la chair, hein, pour vivre, pour accéder à une vraie vie contemplative, peut-être donc un état permanent. Ces purifications, elles durent des années et des années. Il y a l'image du fil à la patte, hein, je vous préviens, qui revient dans pratiquement tous les grands auteurs mystiques. Le fil à la patte, c'est-à-dire que qu'on ait une grande passion, qu'on ait un petit attachement, de toute façon, il y a un fil ou une grosse chaîne, mais de toute façon, il y a quelque chose qui nous empêche de nous envoler. Ouais, de penser qu'il y a des moines qui ont accumulé plein de richesses spirituelles, plein d'expériences spirituelles, plein de connaissances spirituelles, qui restent attachés à quoi? Je sais pas moi, à un livre, à telle ou telle habitude à laquelle ils ne veulent pas renoncer. De penser que ce petit fil très fin suffit. Plonge pas dans une vraie vie contemplative. Alors attention au péché mignon, il n'y en a pas. Ce qui est grave ici, vous voyez, on pourrait développer la chose pendant longtemps, ce n'est pas tellement les péchés ponctuels, puisque l'Écriture dit que le juste pêche sept fois le jour. Ce n'est pas d'arriver à une vie sans péché, ce n'est pas possible. Le juste pêche sept fois le jour. Saint Thomas explique ça en disant qu'étant donné la faiblesse de l'esprit humain, tant qu'on est sur terre, en fait, cette vie contemplative, il y a des moments où l'esprit s'endort, au sens où il ne reste pas dans un état d'éveil spirituel, de contemplation effective. Et c'est sans dénuement où notre esprit s'endort que la faiblesse de la chair reprend le dessus. Veiller et prier. La chair est faible. La chair restera faible toute notre vie, donc des péchés de faiblesse, le juste en fait sept fois le jour, parce qu'il ne reste pas toujours dans une contemplation effective. Mais ce qui est grave, donc, c'est pas ça. Ce qui est grave, c'est l'attachement au péché. Le lien au péché. L'attachement et le péché, il est dans notre cœur. Pour un prêtre, par exemple, se donner le droit de garder une relation affective, intérieurement, en tout cas, ne pas la remettre à Jésus, c'est un attachement du cœur à une relation. Alors, il peut toujours essayer d'éviter toute parole déplacée, tout geste, tout ça, en attendant, dans son cœur, il consent à un attachement. Il est attaché à son attachement. C'est l'attachement aux attachements, aux passions, qui est mortel pour la sainteté. C'est au niveau de cet attachement que l'image du fil à la patte est éclairante, même s'il n'en reste qu'un. Personne n'y arrivera pas. Alors, vous voyez, tous ces raisonnements par lesquels on dit « Oui, mais ça, c'est ma vie d'homme, mais on a besoin de ça pour vivre, ou moi, je... laisse-moi, moi, faut pas exagérer, faut pas... pas de... » L'ascétisme, tout ça, c'est une vision de l'ascétisme qui fait que, bon... considère qu'il ne faut pas être excessif quoi, dans les purifications, il faut se laisser. Ça ne fait pas du mal de se faire du bien, comme me disent certaines personnes. Ce n'est pas le problème de se faire du bien, c'est le problème de l'attachement à ce qui nous procure de la jouissance. Ce n'est pas le problème de la jouissance elle-même, c'est de l'attachement qui est au niveau du cœur, qui fait que notre cœur est partagé. Jacques, premier chapitre, à propos de la sagesse. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, la sagesse c'est la contemplation, elle est dans la contemplation du mystère de Dieu qui éclaire tout, qui la demande à Dieu, qui demande avec foi, sans hésitation. Et il conclut en disant qu'il ne s'imagine pas cet homme-là, recevoir quoi que ce soit du Seigneur, l'homme a l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Dans la pureté, j'ai trouvé la sagesse. Purification des sens. Saint Jean de la Croix considérait qu'à son époque, la plupart des religieux ne terminaient pas la purification des sens parce qu'ils traînassaient. Il traînassait, à force de remettre à plus tard tel ou tel sacrifice, tel ou tel renoncement, de se donner des petits droits à, bah oui, et ça c'est le démon, il aime bien nous faire tourner en rond et nous garder dans toutes sortes de liens. Ça l'arrange. Surtout que ça prend des allures de réalisme. Nous vivons notre vie d'homme. J'ai bien droit à deux. Non, il y a un radicalisme. Si quelqu'un veut me suivre, personne ne peut me suivre, mais juste il ne renonce à tous ses biens. À tous ses biens. Pas d'exception. Nous avons confiance que si nous renonçons, Dieu redonne. Nous passons pour gens qui ne possèdent rien, nous qui possédons tout, dit saint Paul. Nous avons confiance que la relation aux créatures, à ce qui n'est pas Dieu, à ce qui n'est pas la vraie vie en soi, cette relation aux créatures, à tout ce qui est source de jouissance, de joie, eh bien, tout ça nous est redonné dans la liberté des enfants de Dieu, à partir du moment où nous acceptons de suivre le chemin du détachement. Alors, celui qui perd sa vie à cause de moi trouve ici trouve ici une application très concrète. Puisque l'homme vit de relations et qu'il vit de tout ce qui le nourrit, physiquement, affectivement, eh bien, tout renoncement a un goût de mort qui perd sa vie. Ben oui, c'est pour ça qu'on parle de mortification. Ça a un vrai goût de mort, ben, c'est pour ça que c'est douloureux, que c'est éprouvant. Derrière, il y a la vraie vie. Et comme Dieu nous a créés, toute notre humanité est faite pour la vraie vie, que c'est toute notre humanité qui rentrera au ciel et qui participera à la vie trinitaire. C'est-à-dire notre corps lui-même, nos corps ressuscités, seront vivifiés par cet élan d'amour vers le Père. Tout sera, je dirais, transfiguré dans cet amour extatique, dans cet amour pour Dieu, eh bien, il ne faut pas s'étonner que, de fait, les choses soient redonnées à partir du moment où on accepte de tout renoncer, de renoncer à tout pour Dieu. Il ne faut pas s'étonner que, dès cette vie, les choses, Dieu nous redonne les choses en lui. Saint Jean de la Croix explique que celui qui est libre vis-à-vis des choses en jouit beaucoup plus. Parce qu'en étant attaché aux choses, Saint Jean de la Croix explique qu'on a comme un lacet au cœur, belle expression, qui fait qu'en fait, on est plus possédé qu'on ne possède. Que la vraie possession des réalités visibles, elle est donnée dans la liberté et dans la sagesse aussi, parce qu'il dit que dans cette liberté et cette purification, la sagesse permet de goûter la vraie valeur des choses, la vérité. Il voit les choses en vérité, il les goûte selon leur vraie valeur. Et c'est pour ça qu'il en jouit davantage. Je prends un terrain d'application. Suivant le degré de connaissance, et là où on met son cœur, celui qui met son cœur dans une jouissance physique, il recherche la jouissance physique, il s'arrête au physique des personnes, son regard il ne voit pas plus loin, et il recherche essentiellement un toucher. Remarquez que on peut rechercher la jouissance du toucher, la joie du toucher, comme dit Saint Jean de la Croix, on peut rechercher la joie du toucher sans aller jusqu'à l'union sexuelle, mais en tout cas, on reste au niveau d'une connaissance sensible, au niveau des yeux du corps, au niveau du corps de la personne qui nous attire, et on recherche l'union dans le contact physique. Bon. Moi, j'ai rien contre les petits bisous, mais il ne faut pas que la communauté chrétienne, comme dit 23, se transforme en communauté affectivo-bécotante. Bon. Mais cet affectivo-bécotant est lié donc à notre, quelque part, comme on est créé à l'image de Dieu, Dieu est un mystère d'union, de communion, nous sommes, donc nous vivons de relations, nous vivons d'union, et cette union se concrétise par un toucher, donc un baiser, un toucher, qui fait partie de c'est naturel. Bon. Alors on se rend bien compte que si on reste au niveau d'une attraction physique, ça procure une certaine joie, mais c'est pas... Enfin, pas plus loin que ça. Étroitement lié à cette joie du toucher, il y a l'union affective psychique. Là, c'est plus la personnalité psychologique de l'autre qui m'attire. Mais généralement, quand on est attiré physiquement par une personne, c'est qu'on est aussi attiré psychiquement. C'est étonnant les mariages, hein, comment les gens sont attirés par des personnes qui ne sont pas physiquement très belles, par exemple, ou ne s'intéressent pas du tout à des... Enfin, en réalité, ce qui prime, c'est plutôt la fibre psychique affective qui fait que deux psychismes se rencontrent et s'accordent. Les personnalités psychologiques qui s'entrelacent bien et qui recherchent l'union. Donc ces unions, les unions affectives, elles sont plus discrètes, mais elles recherchent en même temps, et toujours il y a une joie du toucher qui est liée. Le corps et le psychisme, on ne peut pas séparer. C'est ce que Saint Paul appelle la chair, c'est ça. C'est à la fois le corps et le psychisme, la chair. La chair avec ses passions, ça comprend toute cette dimension. Après l'homme, il est esprit. C'est un esprit incarné. Il y a l'esprit et puis il y a la chair. Si je connais l'autre selon la chair, que je m'arrête à sa personnalité psychologique, et que je l'aime selon la chair, au niveau d'un amour affectif, passionnel, psychique, qui d'ailleurs se met en place malgré moi, là ça s'impose totalement. Les sympathies, les antipathies, tout ça, on est complètement conditionné, hein, mais bon. Ça se met en place naturellement. Et quand on se nourrit de ces relations affectives, mais on peut ne pas parvenir à voir l'autre comme personne. Saint Aristote, quand même le faire pour un païen, dit que l'amour spirituel naît de la contemplation de l'autre comme personne. Enfin, il n'utilise pas le terme personne. Si je vois la personne de l'autre, au-delà de sa personnalité psychologique qui m'attire plus ou moins, auquel j'ai plus ou moins d'affinité psychique, si j'arrive à la personne même de l'autre en tant qu'elle est esprit créé à l'image de Dieu, si je vois l'image de Dieu en elle, ça change tout. C'est ceci que procure la sagesse. Il nous fait voir les choses dans la lumière de Dieu. Mais il nous fait voir les personnes aussi dans la lumière de Dieu. Contemplatif, il voit les autres dans la lumière de Dieu. Grâce à ce contact avec Dieu, ma relation aux autres est transformée. Ici, je vous cite Benoît XVI. L'amour du prochain se révèle ainsi, au sens défini par la Bible, par Jésus. Il consiste précisément dans le fait que j'aime aussi en Dieu et avec Dieu la personne que je n'apprécie pas, que je ne connais même pas, que je n'apprécie pas selon les attractions psychiques, affectives. Cela ne peut se réaliser qu'à partir de la rencontre intime avec Dieu, contemplation, une rencontre qui est devenue communion de volonté, pour aller jusqu'à toucher le sentiment. Je rentre dans la vie du Christ, je rentre dans les sentiments du Christ, je m'unis à lui. En le contemplant, je plonge. Je participe à une autre vie, qui est sa charité à lui, les sentiments de son cœur qui deviennent les miens. J'apprends alors à regarder cette autre personne, non pas seulement avec mes yeux et mes sentiments, mais selon la perspective de Jésus-Christ. Si le contact avec Dieu me fait défaut, je ne peux jamais voir en l'autre que l'autre, et je ne réussis pas à reconnaître en lui l'image divine. Quand il dit « je ne réussis pas à reconnaître en lui l'image divine », c'est-à-dire « je ne le vois pas comme Dieu le voit », c'est-à-dire comme personne créée à l'image de Dieu. Je ne vois pas sa vraie beauté. Parce que je ne vois pas sa vraie beauté, je ne peux pas m'unir à lui en tant que personne. Je n'ai pas une relation vraiment personnelle, je n'ai pas une amitié spirituelle, comme on dit. C'est une communion de personne à personne. Et en fait, cette communion de personne à personne, d'esprit à esprit, dans la lumière de Dieu, qui fait que je vois l'autre dans sa vérité la plus profonde, au-delà de sa personnalité psychologique, et c'est ce qu'il y a de plus jouissif, la plus grande joie, joie profonde, d'union, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. C'est ça qu'on est appelé à vivre dans l'Église. Communion spirituelle entre nous, être enfant bien-aimé de Dieu, dans la lumière de Dieu. Quand ce contact de personne à personne est donné dans la lumière de Dieu grâce à une transformation de ma vision de l'autre, vous comprenez bien que tout ce qui est attraction psychique et physique est intégré dedans, purifié. Ça n'empêche pas, nous sommes aussi des êtres de chair avec une sensibilité, une attraction qu'on exerce les uns sur les autres, mais tout est vécu d'une manière nouvelle. D'abord dans le détachement, et ensuite dans une plus grande justesse qui fait que, on ressent la joie du toucher, la joie aussi d'une union affective, mais dans la liberté, sans cet esprit de possession mutuelle, posséder l'autre et être possédé, et en restant donc dans la recherche de ce qui est la joie du royaume, la plus grande joie, qui est la joie de l'union des personnes en Dieu, de l'union à Dieu et de l'union en Dieu. Ça, quand c'est vécu dans la relation sexuelle, ça donne une joie extraordinaire, parce qu'il y a tout. Il y a l'union physique, il y a l'union affective, et puis il y a le cœur à cœur. Il y a combien de couples chrétiens qui vivent ça? Si les couples chrétiens comprenaient que même à l'intérieur du mariage, il y a la nécessité d'une purification de l'affectivité, le mariage, ce n'est pas un droit à se laisser aller à ses passions. C'est un chemin de sainteté sur ce terrain. C'est une relation qui, à la base, a pu être pratiquement, j'allais dire, une bêtise uniquement passionnelle. Mais si c'est un mariage en Dieu, souvent, à la base, il y a quand même une perception qui est donnée de la vraie personne de l'autre. Je l'ai dit, beaucoup de témoignages comme ça. Qu'à un moment, la personne a vu en l'autre son cœur. Elle a vu sa vraie beauté. Elle a été attirée par elle. Elle a su que cette personne était pour elle, dans la lumière de Dieu. Ça, quand c'est donné comme ça, c'est l'idéal. Parce qu'à la base, il y a gratuitement une grâce de contemplation de la personne de l'autre. Mais il faut reconnaître que ce sont des grâces ponctuelles. Au début, les jeunes sont trop dans les passions pour avoir la plupart une vie contemplative. Hein. Très peu de jeunes qui ont une vie contemplative, qui ont recherché la sagesse comme la petite Thérèse très tôt. En tout cas, par la suite, l'amour doit se purifier. Benoît XVI parle d'une purification, guérison et maturation de l'éros. Je dis simplement, conclure, que tout est redonné par surcroît, c'est-à-dire que de fait, quand on accepte d'avoir à vivre un chemin de purification, de détachement sur ce terrain de l'éros, de l'affectivité, tout ça, les choses sont vraiment redonnées en Dieu. La sainteté dans le mariage, c'est pas du luxe, c'est en vue d'une vraie communion des personnes. Mais si on se donne le droit à un amour possessif, à rester dans un amour fusionnel possessif, si on veut se nourrir que de cette nourriture-là, je ne dis pas que ça ne procure pas des joies, mais c'est un amour fragile, et on voit bien qu'il ne traverse pas les tempêtes de la vie, cet amour fragile possessif. Il y a cette image du fleuve dans Ézéchiel 47. Vous voyez l'eau qui coule du côté droit du fleuve. Partout l'eau coule, la vie, elle assainit partout. Et les poissons, il y a plein de poissons, puis des arbres fruitiers, la vie se développe partout où coule le fleuve. Là, c'est ça la vie, l'union à Dieu. Cette charité divine qui nous unit à Dieu et met plus que tout dans une vraie sortie de nous-mêmes. Dans un vrai élan amoureux, dans une vraie contemplation du visage de Dieu. C'est ça qui renouvelle, vivifie, purifie tout. Enfin, transforme tout. Ça pénètre partout, même dans la sexualité, même dans l'acte, même physique. pénètre partout. Pourquoi? Parce que nous sommes prédestinés. Dans toute notre humanité, nous sommes faits pour Dieu. Notre corps lui-même, il est prédestiné. Tout est fait pour Dieu, pour vivre de Dieu, en Dieu. Et c'est là que l'homme moderne a au fond de lui-même cette idée que, du contraire, c'est-à-dire c'est le démon qui pousse à ça, qui sème le doute, en laissant penser que si on se laisse aller, si je puis dire, à se livrer à Dieu tout entier, si on se perd pour lui, on va plus pouvoir vivre notre vie humaine, on ne pourra pas continuer à vivre notre vie d'homme, c'est pas humain ce christianisme. Et toutes ces fausses images de la sainteté, de l'ascétisme, du renoncement, d'un sacrifice héroïque, qui finalement... Mais je ne dis pas que ça n'a pas été vécu à certaines périodes sous un mode d'un moralisme, précisément d'un moralisme héroïque conduisant plutôt à une destruction. Il y a une communauté monastique que je vais régulièrement. J'avais entendu parler d'un moine, il est mort parce que pour se mortifier, il mangeait de la cendre. Personne ne lui demandait ça. Évidemment, ce n'est pas bon du tout au niveau de la santé, Claire confirmera. Mais en tout cas, il en est mort. Mais ça, si vous voulez. Il y a aussi, malheureusement, des saints qui ont donné un peu le mauvais exemple. Hein. Saint François d'Assise, je crois, à la fin de sa vie, a demandé pardon à son corps. C'est évident qu'il y a eu des excès. Mais si on laisse le malin profiter de ses excès, pour nous détourner du chemin de la vraie vie, on est les derniers des imbéciles, excusez-moi. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut comprendre en profondeur que c'est une logique de mort pour une résurrection d'essai de vie. C'est un renoncement pour une surabondance de vie. C'est là que l'espérance hein, nous tient ferme, nous aide à pas nous laisser... comment dire, attiédir dans notre élan vers la sainteté, à ne pas nous laisser embourgeoiser. Je vois qu'avec l'âge, eh bien, la tentation de l'embourgeoisement, même pour nous prêtres, on s'installe dans une position, dans un apostolat, dans une position, dans une place, dans l'Église, tout ça, et on finit par oublier l'appel à la sainteté, tout ça. Ben, pour ne pas nous laisser... Il faut garder au fond de son cœur cette nostalgie. Voyez, je vous disais, le Seigneur peut nous demander pendant un long temps de notre vie de vivre les commandements, de garder sa parole, d'obéir à ses commandements et de vivre plus une vie de serviteur que d'amoureux. Parce que de fait, notre cœur, il n'est pas prêt pour aimer Jésus jusqu'à la vraie folie du cœur. Pourquoi faire semblant ? Notre cœur n'est pas assez purifié, on ne le connaît pas assez intimement, mais on peut vivre cette vie de serviteur, on fait des choses pour lui, en gardant la nostalgie de l'union intime. Serviteur fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Tu t'es appliqué à garder mes commandements, tu t'es appliqué à remplir ton devoir d'État, ta mission dans l'Église, dans la société, tu t'es appliqué à faire ma volonté. Tu ne jouissais pas beaucoup de moi parce que ton cœur n'était pas encore assez purifié, mais tu es resté fidèle, tu as persévéré, entre dans la joie de ton maître maintenant. Je n'appelle plus serviteur, mais mes amis. Voyez, vivre les choses dans l'espérance, c'est de les vivre dans cette perspective-là, en se disant, bon, ben, de fait, pour moi, pour l'instant, ma foi, c'est plutôt ce mode du devoir. J'ai des convictions, puis j'essaye de les vivre, mais l'attraction pour Dieu, si je suis sincère avec moi-même, l'attraction pour Dieu reste un peu loin quand même. Moi, ce qui m'attire plutôt, c'est la relation fraternelle avec les frères et sœurs. Tout ça, c'est les relations vivantes, les vraies relations, quoi. Je ne vois pas l'attraction pour Dieu. Un peu dans l'adoration, quelquefois, mais en dehors de ça. Bon, ben, si on ressent ça, eh bien, il faut penser que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Au fond de notre cœur, il peut y avoir un attachement sincère à Jésus qui reste là. Et Jésus nous demande de vivre cet attachement à lui ce désir qu'on a au fond de notre cœur d'être un jour son ami, sous le mode d'une obéissance à sa parole. Et encore une fois, c'est là où tout l'aspect d'observation de la morale, des commandements, d'accepter la morale de l'Église sur la contraception, personne qui se donne un droit d'utiliser la pilule en disant « moi, je ne veux pas renoncer à mes relations sexuelles », tout ça, file à la patte. File à la patte, désolé. Se battre jusqu'au bout pour observer les préceptes, pas dans une sorte de crispation moralisatrice, mais dans l'espérance. Serviteur bon et fidèle. Là, ça change tout. Parce que sinon, on reste enfermé dans une religion de devoir qui est pas vivante et qui est triste, un peu, à côté de la vraie vie. Donc si c'est repris dans l'espérance, ça prend son sens. C'est la mystique qui sauve la morale, vous voyez. D'avoir en vue, en perspective, le cœur de la vie chrétienne et le vrai but, et de vivre les choses dans cette lumière. Voyez, il peut nous arriver de faire la volonté de Dieu d'un cœur comme d'une volonté, comme dit Saint Jean de la Croix, sèche et nue. On a l'impression, en tout cas, de ne pas le faire avec le cœur. Mais on le fait quand même. Alors, on peut le faire quand même dans une sorte de perfectionnisme moral, ou on peut le faire quand même humblement, comme l'offrande de notre bonne volonté à Dieu. Disant, Seigneur, tu vois, je ne le fais pas en étant rempli d'une sainte ardeur pour toi. Je n'ai pas l'impression de le faire vraiment par amour pour toi, mais je fais plutôt parce qu'il faut le faire. Mais je te l'offre quand même, je te l'offre comme l'expression de ma bonne volonté. Et pitié de moi, purifie-moi pour qu'un jour je puisse vivre amoureusement tout ça. Que ce soit la charité divine, l'amour divin qui m'anime, qui m'inspire. Alors sinon, ouais, je termine juste, sinon, si on ne reste pas dans cette espérance, heureux le serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. Vraiment, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en son cœur, mon maître tarde à venir, voilà le péché contre l'espérance. Ça fait 20 ans que je suis dans la communauté, mon maître tarde à venir, ouais, tout ça c'est bien beau, mais... Ça, c'est Luc 12, 43. Si son serviteur dit en son cœur, mon maître tarde à venir, qu'il se mette à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, boire et s'enivrer. Quand il n'y a plus l'espérance, il y a l'impureté et la violence. Il n'y a plus la force pour supporter les autres, on devient violent, dominateur. On a des paroles dures. On voit comment on peut nous-mêmes, comme prêtres, à certains moments, devenir un peu pète sec, excusez-moi l'expression, faire preuve d'autoritarisme, comme ça, se mettre à frapper les serviteurs, les servantes. Et puis forcément, comme il n'y a plus la joie de l'espérance, on se met à manger, à boire et à s'enivrer. On compense. On n'est plus comme un aigle qui déploie ses ailes, qui marche sans se fatiguer. Et donc on grignote, des petites joies, des petites jouissances à droite, à gauche. Voyez ce que ça peut donner dans une vie monastique, un religieux qui perd l'espérance, un prêtre qui perd l'espérance, un homme marié qui perd l'espérance. Internet. Petite image pornographique à droite à gauche, toujours ça de pris. Picor. Plus de sens à la vie, il n'y a plus de d'excrescence, il n'y a plus d'élan. Sur ces paroles douloureuses, nous allons prier pour notre conversion à la messe. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.